Jean-Henri Merle d'Aubigné, Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin. Tome 1, Livre 1, Genève et les premiers Huguenots. Chapitre 18, L'armée de Savoie dans Genève. Avril et mai 1519. Le duc et son armée entrent dans Genève. L'armée prend ses quartiers dans la ville. Le duc et le comte agissent en maître. Le sac de Genève. Désordre dans les caves et les rues. Liste de proscriptions. Reproche du fribourgeois au duc. Un conseil général et une criée du duc. L'armée de Fribourg approche. Message de Fribourg au duc. Effroi et transformation du duc. Les besoles et sarcasmes des Genevois. La médiation de Zurich, Berne et Soleure. L'armée de Savoie approchait de la porte Saint-Antoine. C'était comme une marche triomphante. La monarchie, selon les politiques, allait remporter la victoire sur la République. Ouverture de guillemets. En tête marchait le comte de Genevois, armé à blanc de toutes pièces, disent les chroniques, avec son grand plumard et monté sur un puissant roussin, cheval entier, qu'il faisait bondir, en sorte qu'il était beau de le voir. Fermeture de guillemets. Il était suivi de ses cavaliers cuirassés, puis venait le corps d'armée, les fantassins, qui, au nombre d'environ 8000, avaient à leur tête 6 mamelouks genevois. Enfin paraissait le duc, suivi de toute sa garde. Il avait déposé son humeur débonnaire et voulait que son entrée eût quelque chose de guerrier et d'effrayant. Ouverture de guillemets. « Mon troutier, » dit-il à son principal capitaine, « je jurai que je n'entrerai dans Genève que par-dessus les portes. » Fermeture de guillemets. Mon troutier comprit, et se portant en avant avec une bande, il fit abattre la porte Saint-Antoine et les murailles attenantes. Le duc, satisfait, reprit alors sa marche triomphante. Il était armé de pied en cap. Monté sur une superbe hacnée. Deux de ses pages portaient devant lui l'un son casque et l'autre sa lance. L'un d'eux était Jean-Jacques de Watteville, qui fut plus tard envoyé de Berne. Le faible Charles, enflé de son succès, contenait son coursier et le faisait piaffer sur les pierres rebelles. Ouverture de guillemets. Vrai Don Quichotte. Il montrait la même fierté, dit un historien catholique, qu'un conquérant couvert de gloire, à qui il en aurait coûté beaucoup de sang et de fatigue pour réduire une citadelle après un siège long et périlleux. Fermeture de guillemets. Et même si nous devons en croire les documents contemporains. Ouverture de guillemets. Charles s'avançait comme un Jupiter entouré de tonnerres, plutôt que comme un conquérant. Il avait la tête nue, sans casque, afin que ses yeux, disaient ses courtisans, armés de courroux, et auxquels il avait donné autant de pointes et de foudre, abîmassent l'audace des Genevois assez téméraires pour contempler sa face. Fermeture de guillemets. Toute l'armée, ayant passé la porte après lui, fit le tour de la ville pour étaler son triomphe dans les rues et narguer les citoyens. Conformément aux engagements pris par le duc, ses soldats, entrés par une porte, devaient, après avoir traversé la ville, sortir par l'autre. Bonivard, en l'apprenant, avait branlé la tête. « Il en sera de Genève comme de Troie », avait dit le classique prieur. Les Savoyards, entrés par ruse, comme les Grecs de Sinon, resteront ensuite par force. Fermeture de guillemets. Ce fut en effet ce qui arriva. Toute l'armée se casa immédiatement dans la ville. Les bandes du Faucigny, qui étaient les plus terribles, s'établirent à Saint-Gervais par les ordres du duc. Celles du Pays de Vaud, à Saint-Léger, jusqu'à Larves. Celles du Chablais, au Mollard et le long du Rhône. Celles de Savoie et du Genevois, au bourg de Fours et dans le haut de la ville. La noblesse se logea dans les meilleures maisons qui se trouvaient surtout entre Rives et le Mollard. Le duc lui-même s'établit aussi sur la rive gauche, près du lac, dans la maison de Nice qui appartenait à Bonivard. Le comte, nommé par son frère commandant de la place, fixa à l'hôtel de ville son quartier général. Genève était prise. Le duc de Savoie s'en était rendu le maître par un parjure, et il entendait de demeurer. Plusieurs citoyens crurent leur patrie perdue pour toujours. Les plans formés depuis tant d'années, et même de siècles, étaient réalisés. Le despotisme, triomphant dans Genève, allait y fouler aux pieds les lois, la Constitution, la liberté. Les Savoyards avaient vu de loin, dans cette ville, du haut de leur montagne, un feu qui les inquiétait, dont les flammes pouvaient se propager et consumer les constructions vieillies qu'avaient élevées leurs pères. Ils allaient étouffer les flammes, éteindre les tisons, disperser les cendres. Et le duc, son beau-frère l'empereur, son neveu François Ier, pourraient, à leur gré, opprimer leurs sujets, mettre à mort les martyrs, favoriser les désordres des nobles et des moines et dormir tranquillement sur leur chevet. Les princes savoyards, en effet, se comportaient comme dans une ville prise d'assaut. Le soir même du 5 avril, le comte de Genevois fit enlever les canons braqués sur les remparts, les plaça autour de son logis et les fit charger pour être prêt à tirer contre les citoyens. L'hôtel de ville devenait ainsi la citadelle qui maintiendrait Genève dans l'obéissance. Malgré ses précautions, le comte était inquiet. Il avait violé ses serments et il avait affaire, il le savait, à des hommes énergiques. Il ne se coucha pas et à 2 heures de la nuit, ses officiers, par son ordre, vinrent frapper à la porte des 4 syndics et leur commandèrent de se rendre immédiatement à l'hôtel de ville. Ouverture de guillemets. Remettez-moi les clés des portes, dit le comte, des boulevards, de l'arsenal et des magasins de munitions. Fermeture de guillemets. Si les magistrats s'étaient vraiment imaginés recevoir les Savoyards comme des amis, il fallut bien alors que leur sotte illusion cessât et que le bandeau leur tomba des yeux. Mais comment résister ? L'armée remplissait toute la ville, et les citoyens étaient divisés. Les syndics firent ce qu'on leur demandait. Le fanatisme des déloyaux mamelouks ne fut pas encore satisfait. Cartelier, Pierre Joly, Thomas Moine et d'autres, se mettant à la suite du terrible Montrautier, qui voulait museler complètement les Genevois, parcoururent les rues, les places, les églises et commencèrent à arracher les loquets et les serrures des chaînes et des portes de la ville et même les battants des cloches. En vain les syndics voulurent-ils les arrêter. L'effraction continua. Ces malheureux n'oublièrent pas une rue et ayant ainsi désossé Genève, qu'ils voulaient mettre en pâte et en hachis, ils portèrent au duc tous ses fers. Ouverture de guillemets. C'est en signe, dirent-ils, en les déposant devant lui, c'est en signe de vraie rémission de la juridiction de la ville, et afin d'intimider les rebelles et de leur ôter tout espoir de secours. Genève est aux pieds de votre Altesse. Fermeture de guillemets. Ceci se passait avant jour. Enfin, le mercredi 6 avril 1519 commença. Et cette journée ne fut pas moins triste que la précédente. Les soldats savoyards, oubliant qu'ils ne devaient leur succès qu'à la violation la plus honteuse des promesses les plus sacrées, ivres à la fois de haine et d'orgueil, se mirent à jouer le vae victis. On sait les désordres auxquels les armées indisciplinées de cette époque avaient coutume de se livrer dans les vines prises d'assaut. Les soldats du Caux, moins cruels mais plus burlesques, donnèrent dans le sac de Genève quelques-unes de ces comédies que les impériaux jouèrent 8 ans plus tard dans le sac de Rome. Les bourgeois, se réfugiant au Galta, avaient cédé leur lit de plume aux soldats. Ceux-ci dormirent d'un profond sommeil, puis le matin, pour se dédommager de ce qu'il n'y avait pas eu de bataille, ils en livrèrent une d'un genre nouveau. En guise de boulet, ils se jetèrent des coussins à la tête. Prenant l'édredon pour ennemi et tirant l'épée, ils n'y enfoncèrent courageusement jusqu'à la poignée. Ce furent les plus grands coups portés durant cette guerre par les soldats de Charles III. Alors, voulant poursuivre leur burlesque plaisanterie, ils secouèrent aux fenêtres leur nid de plumes et suivirent, avec de grands éclats de rire, les évolutions que le duvet faisait dans les airs. Puis ils demandèrent la clé de la cave. Ils se formèrent en cercle autour des tonneaux, les saignèrent abondamment et chantèrent à gorge déployée en buvant tous leurs seaux. Ouverture de guillemets. Enfin, dit une chronique, ils tiraient la broche, c'est-à-dire ils versaient le vin de manière à ce que la cave en fût remplie, et remontant en chancelant dans les maisons, ils rudoyaient ceux qu'ils rencontraient, parcouraient les rues en poussant des cris, faisaient des discours pleins de ventrées et se livraient à 1000 violences. Fermeture de guillemets. À Rome, les impériaux se moquaient de la papauté. À Genève, les soldats du Caux, ivres de vin et de joie, foulaient aux pieds l'indépendance et triomphaient de la liberté. Mais tout à coup, on sonne l'alarme. Ces Rodomont s'imaginent que les Genevois vont se défendre, et les plus grands hâbleurs, étant d'ordinaire les plus grands poltrons, tous détalent. L'un se sauve à droite, l'autre à gauche. Plusieurs courent vers la rivière et se cachent sous les moulins. De mieux avisés cherchent d'autres retraites. Ce n'était qu'une fausse alarme. Le comte de Genevois lui-même, mécontent de leur conduite, la leur avait donnée pour leur servir de leçon. Pendant ce temps, les Mamelouks étaient nuit et jour en séance au petit poil, avisant aux meilleurs moyens d'étouffer pour jamais dans Genève l'indépendance nationale. Ils croyaient que la ville n'appartiendrait jamais à la Savoie tant que ceux qui avaient voté l'alliance avec Fribourg seraient en vie. Un roi de Rome, se promenant dans son jardin, coupait avec sa baguette les têtes des pavots les plus élevés. Les conjurés, décidés à profiter des leçons d'histoire, se mirent à discuter la liste des proscrits et y placèrent les 4 syndics, les 21 conseillers et quelques autres citoyens notables, de manière à faire la quarantaine. Voulant finir promptement cette affaire, quelques mamelouks se rendirent vers l'exécuteur des hautes œuvres et, ouverture de guillemets, lui demandèrent combien il prendrait pour 40 têtes. Fermeture de guillemets. Il paraît que cet homme demanda plus que les têtes ne valaient, selon l'appréciation qu'ils en avaient faite. Les documents contemporains nous apprennent qu'ils marchandèrent. 3 chroniques du temps, dignes de confiance, rapportent cette dégoûtante visite au bourreau. Le bruit s'en répandit, et tout Genève trembla. Quelques-uns de ceux qui savaient être sur la liste se cachèrent çà et là. Ouverture de guillemets. Chose bien sotte, disaient quelques-uns. Sans Dieu, les places les plus secrètes ne sont que cachettes de petits enfants qui se mettent les doigts sur le nez et pensent que personne ne les peut voir. Fermeture de guillemets. Les plus courageux huguenots s'indignèrent. Au lieu de se cacher, ils saignirent leur épée, levèrent la tête et traversèrent fièrement les rues. Ouverture de guillemets. Mais on leur fit sentir la corde. fermeture de guillemets. Est-ce à dire qu'on les en frappa ou seulement qu'on les en menaça? Je l'ignore. Sur ce, continue Savion, il n'y avait autre remède que de se recommander à Dieu. Berthenier et ses amis entouraient Marty. Ils lui représentaient qu'au moment où le duc avait fait de belles promesses, il ne pensait qu'à les violer. Il s'ajoutait que certainement ce prince parjure rendrait compte de son crime. Le fribourgeois, à la fois honteux et indigné, se rendit vers le duc et lui dit « Ouverture de guillemets. Comment l'entendez-vous, monseigneur? Me voulez-vous faire réputer pour un traître? J'ai votre parole. Vous m'avez fait donner à ceux de Genève assurance de votre bon vouloir. Ils vous ont, en conséquence, ouvert leurs portes à la bonne foi, sans quoi vous ne seriez point entré sans moufle, sans soufflet. Mais maintenant vous rompez votre promesse? Certainement, monseigneur. Mal vous en adviendra. » Fermeture de guillemets. Le duc, embarrassé, dépité, ne pouvant se justifier, se mit en colère et jeta à l'ambassadeur fribourgeois la plus grossière insulte. Ouverture de guillemets. « Allez, lui dit-il, en l'apostrophant avec une si sale vulgarité que l'histoire ne peut transcrire ses expressions. Ôtez-vous de ma présence. » Fermeture de guillemets. Pourtant, cette démarche fit réfléchir Charles. Il résolut de colorer ses violences. C'est pourquoi, ayant mis sur pied ses hommes d'armes, il convoqua un conseil général. Il n'y vint que les Mamelouks, encore n'y étaient-ils pas tous. Malgré le petit nombre, ses partisans ducaux, réunis au milieu des arquebuses, n'hésitèrent pas à renoncer au nom de Genève à l'alliance avec Fribourg. Aussitôt, le duc poursuivit son triomphe, et voulant faire sentir la main d'un maître, il ordonna le jeudi 7 avril au matin que des huissiers et des hommes d'armes se réunissent autour du héros de la ville et que l'on fît une criée, c'est le mot du temps, avec un surcroît de force et d'appareil. Ouverture de guillemets. « Oyez, oyez, oyez !» dit le héros, « de la part de notre très redouté prince et seigneur, Monseigneur le duc de Savoie, que personne de vous autres, sous peine de 3 coups d'estrapade, ne soit si osé que de porter aucune arme offensive ni défensive, que nul ne soit si hardi que de sortir de sa maison, quelque bruit qui se fasse, et même de mettre la tête à la fenêtre sous peine de la perdre. Quiconque fera résistance aux ordres de Monseigneur sera pendu aux fenêtres de sa maison. » Fermeture de guillemets. Tels étaient l'ordre et la justice établie par le duc Charles. On eût dit que, pour effrayer les Genevois, ils voulaient qu'ils ne pussent sortir de leur maison sans marcher au milieu de ses victimes. La criée continuait de place en place et la foule augmentait peu à peu. Tout à coup, on vit un certain mouvement parmi le peuple. Quelques hommes isolés paraissaient. Leur allure avait quelque chose de mystérieux. Ils parlaient à leurs amis, mais à l'oreille. Bientôt l'agitation augmente. Elle se communique de proche en proche. L'un donne des signes de joie, l'autre de terreur. Enfin, le mystère se dévoile. « Fribourg !» s'écrient quelques voix. « L'armée de Fribourg approche !» À ces mots, le héros de la ville, les hommes d'armes, les Mamelouks et les Savoyards qui l'accompagnaient, s'arrêtent. Ils s'informent. Ils apprennent qu'un courrier vient d'arriver du pays de Vaud. Ils se débandent. Huguenots et Mamelouks se dispersent dans la ville et y répandent la grande nouvelle. Les Suisses! Les Suisses! Et l'on répond de tous côtés. Vive les Huguenots! Ainsi la criée ne se put achever par toute la ville, dit un manuscrit contemporain. Besançon Hugues, ayant échappé à tous les dangers de la route, était arrivé à Fribourg, et sans se donner le temps de reprendre haleine, il avait paru aussitôt devant le conseil. Il avait décrit la perfidie et les violences de Charles, la désolation et les dangers de Genève. Il avait montré cette ville sur le point d'être annexée à la Savoie, et les chefs de la République prêts d'être livrés à la mort. Si Fribourg ne se hâtait, ils ne trouveraient plus que leurs têtes, pendues aux portes de la ville, comme celles de Navis et de Blanchet. Les regards du généreux citoyen, l'animation de toute sa personne, l'éloquence de son appel, enflammèrent tous les cœurs. Les yeux se remplirent de larmes, et les mains des hommes de Fribourg se portèrent sur la garde de leur épée. Un régiment bien armé partit aussitôt pour Genève. Ce ne fut pas tout. L'élite de la jeunesse accourait de toutes parts, et l'armée se monta bientôt à 5 ou 6 000 hommes. Étant entrée dans le pays de Vaud, elle se saisit du gouverneur de son Altesse, le sire de Lulins. Ouverture de guillemets. Écrivez à votre maître, lui dirent les chefs de Fribourg, qu'il ne fasse aucun mal à nos combourgeois, que votre tête nous réponde des leurs. Au reste, nous allons le festoyer à Genève. Fermeture de guillemets. Bientôt, les drapeaux libérateurs flottèrent sur les collines qui dominent le lac. Alors, un grand nombre de jeunes hommes du pays de Vaud se réunit autour d'eux et l'armée se présenta devant Morges avec 13 à 14 000 combattants. À leur approche, les habitants de cette ville, dévoués au duc, se jetèrent effrayés dans des barques et s'enfuirent en Savoie. Les fribourgeois entrèrent dans leur maison vide et y attendirent la réponse de son Altesse. Le gouverneur de Lulins ne manqua pas d'avertir son maître. Et c'était ce message qui avait interrompu la criée. Le duc, à la fois violent et pusillanime, fut épouvanté, et devint tout à coup aussi humble qu'il avait été insolent. En voyant quérir l'ambassadeur de Fribourg, il lui parla comme à un bon ami. Ouverture de guillemets. « Courez au camp de Morges, lui dit-il. Apaisez ceci, faites de grâce que vos seigneurs s'en retournent. » Fermeture de guillemets. Merti, qui n'avait pas oublié l'insulte grossière de Charles, lui répondit aigrement. Ouverture de guillemets. Pensez-vous qu'un, point de suspension, tel que moi, puisse faire battre en retraite une armée? Chargez vos gens de porter vos bourdes. Fermeture de guillemets. Alors le duc, toujours plus effrayé, envoya Monsieur de Maglian, capitaine de la cavalerie, garder le passage de Nyon et, changeant de chanson, il fit publier dans toute la ville que, ouverture de guillemets, nul ne soit si osé ni si hardi de faire ni mal ni déplaisir à personne de Genève, sous peine de la harte, fermeture de guillemets, d'être étranglé. En même temps, le sieur de Salneuve et un autre conseiller de son Altesse se rendirent au conseil général, mais sans baguette, sans houssine, et avec un sourire bienveillant sur leur face. Là, après avoir assuré le peuple de l'amour que le duc lui portait, ils demandèrent que l'on envoyât à Morges 2 citoyens pour déclarer aux fribourgeois que le duc ne ferait aucun mal à Genève. 2 mamelouks, Tacon et de l'Estelet, partirent. Tout changeait dans Genève. Le projet de livrer 40 têtes était abandonné au grand regret de Cartelier, qui disait plus tard, ouvertant de guillemets, « Quel dommage, sans ces fribourgeois, on l'eût exécuté, fermeture de guillemets. » Les huguenots, reprenant courage, ouverture de guillemets, faisaient barbe aux faux ignorants et autres gens d'armes, fermeture de guillemets. Les habitants du faubourg de Saint-Gervais furent enclins à la raillerie, assaillaient leurs hôtes de chansons, d'épigrammes et de sarcasmes. Les huguenots imposaient à leurs hôtes un jeûne rigoureux. On était en carême. et ne leur donnait pour pitance que de petits poissons appelés besoles, maintenant ferrats. « Vous êtes trop bon chrétien, » disait-il ironiquement au Savoyard, « pour faire gras maintenant. » Aussi, appela-t-on par moquerie cette expédition la guerre des besoles. Ce nom lui est resté dans les chroniques du temps. On ne s'entendait pas à Morges. Besançon Hugues et Madbuisson disaient à Fribourg d'aller en avant. Tacon et de Lestelet lui disaient d'aller en arrière. Et comme les chefs hésitaient, les députés des cantons arrivèrent et proposèrent un terme moyen, que la Savoie retira ses troupes et Fribourg son alliance. C'était Zurich, Berne et Soleure qui cherchaient ainsi à profiter de l'occasion pour retirer à Genève le seul secours qui, après Dieu, pouvait le sauver. Les Huguenots, abandonnés des cantons, restèrent stupéfaits. Renoncer, leur répétait-on, à l'alliance avec Fribourg, sans préjudice des libertés. Mais ils ne le voulaient, dit Bonnivard. Or, ils avaient le plus de voix. Fermeture de guillemets. La majorité réelle du peuple ne consentit donc point à cette proposition funeste. Mais il paraît bien qu'elle fut agréée de nouveau par un fantôme de conseil général auquel n'assistaient que des mamelouks. Cela fait, le duc se hâta de sortir de Genève avec moins de pompe qu'il n'y était entré. Et la peste les remplaça. Charles, en quittant la ville, y laissait de tristes pressentiments. Les Suisses accusaient les Genevois de tumultes et d'insultes et déclaraient étrange, indigne, tout ce qui portait préjudice au duc, leur illustrissime allié. L'évêque, alors à Pignerol, écrivait aux citoyens, ouverture de guillemets, « Étant hors de danger de ma grosse maladie, je délibère de passer les monts pour l'utilité et bien de ma cité. » Fermeture de guillemets. Or chacun se rappelait qu'il s'était servi des mêmes paroles quand il avait écartelé Navis et Blanchet. Ces signes étaient menaçants, le ciel était gros d'orage, les citoyens tremblaient pour les têtes les plus précieuses, et des actes affreux allaient augmenter, prolonger leur effroi. Ouverture de guillemets. Depuis la guerre de 1519 jusqu'en 1525, dit le savant secrétaire d'État Chouet, le peuple de Genève fut dans une grande consternation. Fermeture de guillemets. Thank you.